Sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
En mai 2005, l'Académie des Beaux-Arts s'ouvre à la photographie en créant une section spéciale aux côtés de la composition musicale, de la peinture, de la sculpture, de la gravure, de l'architecture et du cinéma. Et Lucien Clergue est le premier photographe à siéger dans cette nouvelle section. C'est la cérémonie d'accueil à l'Académie des Beaux-Arts que nous vous proposons d'entendre, avec pour commencer le discours de réception prononcé par Guy de Rougemont, puis l'allocution de Lucien Clergue. Rendez-vous était donc pris sous la coupole le 10 octobre 2007.
Nous avons le bonheur de recevoir l'installation de Lucien Clergue, élu membre de la section de photographie. La parole est à notre confrère Guy de Rougemont.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame le Conseiller, chers confrères, Mesdames, Messieurs et Majestés, l'installation d'un nouvel académicien est toujours un événement important. La venue d'une femme ou d'un homme, élu par ses pairs, pour l'exemplarité de son œuvre, est ainsi officialisée selon la solennité d'un rituel immuable. Cette tradition n'est en rien l'expression d'un conservatisme. L'installation d'aujourd'hui revêt en effet une dimension historique. L'Académie des Beaux-Arts accueille en la personne de Monsieur Lucien Clergue une discipline qui n'était pas représentée. La photographie devient le 8e art de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Monsieur Lucien Clergue va désormais occuper le premier fauteuil de la 8e section qui en comprend deux. Avant de regarder ensemble les 800 000 clichés de Lucien Clergue, de feuilleter plus de 100 ouvrages illustrés de ses photographies, d'énumérer la multitude de ses expositions et de ses conférences à travers le monde, j'aimerais revenir un instant sur la création de cette 8e section et, au nom de l'ensemble des membres de notre Académie, adresser à notre secrétaire perpétuel, M. Arnaud d'Autrive, notre gratitude d'avoir initié, soutenu, relancé et obtenu cette ouverture à la photographie. Désormais, la photographie nous compose. L'élection de maréchal de Lucien Clergue le confirme. Je vous remercie, Lucien Clergue, de m'avoir invité à vous recevoir. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir ainsi témoigner de ce que les temps où s'affrontaient peintres et photographes est bien révolu. Pour aborder une œuvre comme la vôtre, il faut la considérer dans son épaisseur, sa profondeur, selon les strates d'une sédimentation, comme une matière compacte dont les couches successives sont en relation les unes avec les autres et qui, par osmose, nourrissent les couches à venir. C'est-à-dire qu'il convient de prendre en compte l'ensemble, pas forcément homogène, de l'œuvre, ainsi que la multiplicité des liens parfois contradictoires qui la rattachent à une réalité. Au contraire de cela, trop souvent, on l'épure, on la sectionne, on la réduit à ce qui permet de la mettre en perspective d'une histoire de l'art, comme un maillon que l'on enchaîne. Nous avons visité ensemble la récente exposition rétrospective de votre œuvre, organisée sous l'égide de M. Schiavetti, maire d'Arles, et présentée par Mme Moutachar, directrice du musée Réattu. Cette visite a confirmé mon impression première. Le judicieux choix des 360 photographies qui la composent ressemble au résultat de la plongée d'une sonde géologique dans l'épaisseur de cette sédimentation irriguée par les eaux du pays d'Arles. Car vous êtes bien, Lucien Clergue, le tenant de cette antique tradition méditerranéenne de l'artiste attaché à un lieu. Ainsi, du lieu où s'est tenue l'exposition, aujourd'hui espace Van Gogh, autrefois Hôtel Dieu, où fut interné Van Gogh, où vous naissez en 1934 et où meurt votre mère en 1952. Ma mère meurt jeune, à 50 ans, après des années de maladie hantée par la mort. C'est votre mère qui vous fait donner des leçons de violon. Vous êtes un enfant très doué, mais l'argent manque pour vous envoyer au conservatoire. C'est l'un des grands regrets de votre vie. Mais c'est aussi votre mère qui vous offre un petit appareil photographique en bakélite. Je photographie ce que j'aime, ma mère et mon violon, j'ai 13 ans. Votre mère rêve de faire de vous un artiste. Profondément affecté par la guerre et la destruction de votre maison lors des bombardements de 1944 sur Arles, vous n'avez de cesse d'en photographier les ruines. Vous suivez un apprentissage de la photographie que vous prodigue M. Chêne, pâtissier de la rue du 4 septembre, et vous rencontrez l'écrivain Jean-Marie Magnan qui vous conseillera et vous encouragera sans relâche. Les temps sont durs pour l'adolescent qui doit abandonner ses études pour travailler au Lion d'Arles, une entreprise de distribution alimentaire. À la mort de votre mère, vous êtes recueilli par Madame Bernard. Avec affection, elle sera votre mère adoptive et ses enfants seront vos frères. Si Dante conseille d'explorer à la fois l'enfer et le paradis, pour vous, le paradis sera pour plus tard. Car c'est bien l'enfer que vous explorez avec rage, désespoir et détermination en allant photographier jour après jour, à l'heure de la pause de midi, des maisons en ruine, des charognes, de vieux godillots, en hommage à Van Gogh, des linges entortillés à des branchages enchevêtrés, des volailles désarticulées ou des meubles disloqués que le Rhône dépose sur ses rives. Photographie en noir et blanc, dans la verticale lumière du soleil au zénith, selon le carré d'un appareil 6-6 que vous développez et tirez la nuit. Michel Tournier en salue l'entreprise. Il fallait du culot et surtout du talent pour arracher de la beauté, une beauté bouleversante, éclatante, à une matière aussi radicalement rebutante. Le premier à voir vos photographies est Jean-Marie Magnan et le second, Pablo Picasso. Nous sommes en 1953, Picasso a 72 ans, vous en avez 19, je vous laisse raconter. À la sortie d'une corrida aux arènes d'Arles, je mets mes photos sous le nez de Pablo Picasso. Il les regarde et me dit « je voudrais en voir d'autres ». Alors je me suis mise au travail pour lui, comme une obsession. Il a remplacé ma mère, mon père, il était tout pour moi, l'absolu. Picasso admire comme le style triomphe d'une matière pauvre, lui qui, pour ses plus belles sculptures, a préféré au bronze et au marbre la pauvreté des débris et les vieilleries de la hotte du chiffonnier. Picasso a aussi ressenti la présence du duende, ce duende dont Federico Garcia Lorca écrit qu'il exerce un pouvoir illimité sur la liturgie de la corrida et fait oublier au torero qu'il expose à tout moment son cœur aux cornes, qu'il opère sur le corps de la danseuse comme le vent sur le sable, qu'il force Goya à abandonner les grises et les roses pour broyer avec les poings des noirs de bitume. Lorca ajoute: le duende blesse. C'est dans la guérison de cette blessure qui ne se fermera jamais que réside l'insolite originalité d'une œuvre. Les aléas de votre enfance malheureuse vous ont privé d'espérer rencontrer celui de la musique. Mais dans l'ardeur à dominer votre détresse, en cherchant à l'exprimer, le duende de la photographie vous a blessé à jamais. En un instant, vos photographies procurent au vieux Minotaure une sensation qu'il ne pensait plus retrouver. S'ensuit un bref voyage en Espagne pour accompagner votre copain Pierre Schul qui veut devenir torero. Vous photographiez son apprentissage. Grâce à cette première expérience, la tauromachie se mêle désormais intimement à votre œuvre, à votre vie. Vous vous souvenez qu'encore enfant, vous alliez, la nuit, aux arènes d'Arles, la veille de la corrida, renifler l'odeur des fauves. C'est étrange combien la rémanence de souvenirs olfactifs perdure. En dehors de la Real Maestranza de Séville, les deux arènes que vous préférez sont les amphithéâtres romains d'Arles et de Nîmes. Leur antique et majestueuse beauté ajoute au rituel de la corrida une dimension d'éternité, celle de la rencontre de l'homme et du taureau à Lascaux ou Altamira. Pour ne faire plus qu'un, en un mythe extrême, le Minotaure. Picasso en a fait la représentation du peintre, aux prises avec la passion amoureuse ou meurtrière, avec la violence de la création et les blessures du doute. Celle aussi du torero, dans un affrontement fratricide au taureau. Vous fixez avec une rare intensité l'inéluctable mort du taureau, dans Toros Muertos, sur un texte de Jean-Marie Magnan, puis dans le film Drame du taureau, avec lequel vous obtenez le prix Lumière en 1966. Vous savez aussi saisir les subtilités du toreo, qui, lorsqu'il atteint la perfection, est le spectacle visible d'une invisible réalité, comme l'écrit José Bergamine. Nombreuses sont vos monographies consacrées à des toreros, Ordóñez, El Cordobés, ou encore Nimeño II, préfacé par son frère Alain Moncouquiol. Et les films réalisés sur ce thème, Linares, le jeune torero, Resulín de Ubrique, Entraînement du torero. Votre connaissance de la Lidia fait de vous l'un des plus célèbres photographes de cet art si complexe. Mais revenons à ce souhait de Picasso de voir d'autres de vos photographies et pour qui vous entreprenez la grande récréation. Voici ce que vous en dites. J'ai d'abord fait un inventaire de mon univers, de là où je vivais. J'ai introduit de petits saltimbanques qui correspondaient aux influences majeures qui étaient les miennes à cette époque. Le Picasso de la période rose, l'Orphée avec les personnages clés de l'œuvre de Cocteau, c'était des enfants de la rue que je déguisais. Il y avait aussi, comme influence, la grande parade de Fernand Léger. Et si l'Arlequin est un hommage à ceux de Picasso, la tristesse de l'enfant au violon est bien la vôtre, celle d'avoir dû abandonner cet instrument. Les acteurs de cette fantomatique troupe nous regardent avec une fixité d'éternité. Immobile, ils ne jouent pas. C'est une jeunesse sans âge, dans l'inertie d'un silence d'outre-tombe. Ces photographies transmettent une fascinante charge émotionnelle. Avec la complicité et l'œil critique de votre ami Magnan, vous composez un gros paquet de vos photographies et l'envoyez à Picasso le 8 octobre 1955. Les jours passent, il tarde à vous répondre. N'y tenant plus, vous entreprenez le voyage de Cannes et vous présentez à la Californie. Au gardien qui vous refuse accès, vous annoncez « Dites-lui simplement que je m'appelle Clergue, que je viens d'Arles et que je voudrais le voir. »« Revenez à 14h, vous répond-il. » Alors dites, Picasso vous reçoit. Pendant 5 heures, il vous laisse le photographier. Il vous observe et à l'heure du départ, vous avez gagné son amitié. Il est prêt à dessiner affiches et couvertures de vos futurs livres. Tu n'as qu'à demander, j'exécuterai. il ne manquera jamais à sa parole. Dès votre retour à Arles, recommandé par votre nouvel ami, vous écrivez à Jean Cocteau, enjoignant les photographies de la grande récréation. La réponse de Cocteau se termine par ces mots. Les photos sont une masse légère de poésie, et je me demandais par quel bout vous répondre. Je me le demande encore. J'ai une précision de mathématicien dans mon vague. De grâce, dites en quelques lignes votre souhait. Bon sang, que je déteste pas faire plaisir à Picasso. De ce jour de 1955 se poursuivra jusqu'en 1963 une correspondance entre vous et Cocteau qui sera éditée en 1989 chez Actes Sud. Cette correspondance exprime, quant à vos lettres, la légitime impatience à faire connaître vos travaux, la grande récréation, les premiers nus, les gitans. Vous jouez finement auprès de Cocteau de la protection que vous accorde Picasso et vous savez rapporter les commentaires élogieux qu'il porte sur votre photographie pour convaincre le poète d'adhérer à vos projets d'édition. Vous savez aussi faire part de votre désarroi de jeune provincial. Les 5 heures passées avec Picasso m'ont ouvert la porte d'une trappe, celle où les jeunes gens de province travaillent dans la solitude et la ferveur. Mais le couvercle soulevé, je ne sais rien du tout du paysage et de la manière de s'y conduire. Le remerciant de vous avoir reçu, vous lui écrivez « Ce voyage à Paris, le premier de ma vie, m'aura permis de faire le point. Je me trouve en fin de compte heureux d'être né, de vivre et de construire mon œuvre à Arles. » De son côté, le généreux Pygmalion, le clairvoyant découvreur de talent, vous invite à la patience, tout en se mettant en quatre pour trouver des réponses à vos questions. Il sait aussi vous solliciter pour le tournage du Testament d'Orphée et pour ses fresques de la chapelle Saint-Pierre de Villefranche-sur-Mer. Vos gitans sont devenus les personnages de la trahison de Saint-Pierre. Gentiment, il vous morigène lorsque vous tardez à signer un contrat. Il ne faut pas avoir mauvaise réputation en affaires lorsqu'on est de notre famille. De lettre en lettre se développe une amitié qui se mue en une filiale affection. Jean-Marie Magnan et vous êtes désormais de la famille, celle de Picasso, Cocteau, Ernst, Man Ray, etc. La dernière lettre de Cocteau est du 29 juin 1963. « Merci, mon cher Lucien, tes belles ibages tombent sur mon lit de malade et valent mieux que les remèdes. » Ce qui étonne vraiment dans ces jeunes années de la mise en place de votre œuvre me semble être votre farouche détermination à forcer le destin en empruntant des voies qui ne sont finalement que des chemins de terre, ceux qui mènent aux marais, aux dunes, à la mer. D'y voir ce que personne ne regarde, de vous y attarder, d'y revenir avec tout le soin de votre savoir photographique pour en retirer l'apaisement d'un travail bien fait. Les blessures de l'enfance, celle indéniable du duende, vous insufflent une orgueilleuse sincérité qui force l'attention de ceux qui vous entourent. Cette sincérité est la loyauté de votre caractère, la vérité de votre pensée, l'authenticité de l'engagement de l'artiste dans son art, le sérieux d'une œuvre. L'orgueil n'est pas celui de l'autosatisfaction, mais bien celui de ce dur désir de durer, cher à Éluard. À vos tourments d'adolescent, par intuition, vous trouvez à répondre en suivant l'injonction de Hölderlin, il faut habiter poétiquement la terre. L'édition des saltimbanques ne verra le jour que plus tard et cette série d'images fera le tour du monde sous d'autres formes. Ce que vous aviez conçu comme le storyboard d'un film ne trouvera pas le mouvement du cinématographe. Cette forme d'expression dont vous avez rêvé, qui vous est refusée par manque de moyens, vous n'aurez de cesse d'y revenir à travers une vingtaine de films dont Delta de Sel, sélectionné au Festival de Cannes, et aux Oscars en 1968, ou Picasso, Amour, Guerre et Paix, tourné chez Picasso. Pendant ce temps, votre emploi de manutentionnaire au Lion d'Arles a tôt fait de ruiner votre santé. Vous êtes muté dans un bureau, sans lumière, à compter des fromages, ce qui vaut mieux que d'être bien payé à photographier les grands de ce monde pour des magazines, écrivez-vous à Cocteau. J'étais fasciné par la mort. La lumière que vous allez chercher en éclaire les traces. Chat momifié, goéland dont il ne reste que le bec et quelques plumes, flamant rose saisi par le froid. Maxence ne s'y trompe pas lorsqu'il est le premier à vous acheter un de ces portfolios que vous réalisez le soir après le travail. Aux ruines provoquées par la folie meurtrière des hommes ont suivi celles des débordements de la nature. Ce sont maintenant les rejets de la société qui vous captivent. Les mannequins de papier mâché, démembrés, éventrés, dans les postures ambiguës d'une humanité factice où la fixité de beaux yeux de verre observe la prudente progression d'une sauterelle sur le grain d'une peau de carton. La mort toujours. Vous exorcisez cette hantise en photographiant sa demeure, depuis les Aliscans jusqu'aux tombes des moines de Montmajour, en vous attardant au cimetière de Trinquetail. C'est la nuit de la terre que vous mettez à jour. Encore une fois, dites-vous, si vous prenez mon travail de cette époque-là, ce n'est pas en référence à la photographie qu'il faut le faire, mais en référence à la peinture, à la poésie. L'insistante fréquentation de la mort vous ouvre à la vie, celle des autres, celle de vos voisins et amis du quartier de la Roquette, les Gitans d'Arles, qui composaient pour l'essentiel la clientèle de l'épicerie de votre mère. Votre complicité avec eux vous autorise à les photographier dans leur quotidien et lors du pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer qu'accompagne le chant, la danse et la musique. C'est là que vous découvrez Manitas de Plata, talentueuse interprète de sa culture, auquel vous permettrez de triompher en 1965 au Carnegie Hall de New York. En m'occupant de Manitas, je vis une carrière de musicien par procuration, dites-vous. Vous ferez de votre frère adoptif André Bernard son impresario. Les rythmes des musiques gitanes se prolongent en vous lors de vos visites au marécage pour y observer les eaux dormantes des lagunes, la stagnation de celles des marais, ces eaux faussement mortes dont le miroir offre un captivant et silencieux dédoublement à l'immobilité de roseaux brisés. C'est la vie qu'il vous faut opposer à l'inertie de cet univers envoûtant. Vous ressentez l'absolue nécessité d'une présence charnelle, bien vivante. Mais ces eaux croupissantes donnent au corps nu d'une femme qui s'y allonge l'image d'un enlisement létal. Vous écrivez « Je travaille sur les nues tous les soirs et m'aperçois que je retrouve dans l'eau d'un étang la matière du chat et de la poule des bords du Rhône. C'est assez angoissant. » Un instant encore, Thanatos vous a retenu dans ses eaux glauques. Une remarquable lucidité vous le fait comprendre et trouver la force et les moyens de vous en éloigner. C'est dans la vivante mouvance de la mer que vos nues vont s'épanouir en un fastueux recto verso, sans tête ni membre, offrant tour à tour au soleil, à la vague, à l'écume, leur sein, leur ventre et sa toison, où le charivari de fesses tendues, bombées à craquer, belles otaries souples et moulées dans l'élément visqueux, comme l'écrit Patrick Grinville dans Le Nu foudroyé. Picasso, qui en reçoit un paquet, s'écrit « Les photographies de Lucien sont les carnets de croquis du bon Dieu ». Il vous conseille de chercher l'aide de Cocteau pour trouver un éditeur, car comme il le dit, lorsqu'une barque en vaut la peine, il sait la faire aborder. C'est ainsi que Pierre Segers, qui a humé le parfum d'un possible scandale, choisit une douzaine de vos nus pour illustrer les poèmes d'Éluard intitulés « Corps mémorable ». Réédité à plusieurs reprises, cette première publication connaîtra sous la forme de nombreux livres dont bien souvent vous réaliserez les maquettes et suivez l'édition avec une exigeante attention. Une exposition autour de corps mémorables a lieu au Carré d'art de Nîmes en 2006, accompagnée d'un document composé et édité par Jean-François Dreuil et préfacé par Arnaud Dautrive. Le nu sera pour l'essentiel l'objet de votre enseignement lors des multiples ateliers que vous dirigerez à travers le monde, souvent accompagnés d'expositions et de publications. Cet enseignement ne vous pèse pas, bien au contraire, car il est l'occasion de rencontres et d'échanges avec des photographes dont vous admirez l'œuvre. Au nu de la mer vont suivre ceux de la forêt en 1971, puis ceux de la ville à partir de 1997. Une composition en triptyque de la sensualité en réponse à celle funèbre des nécropoles de 1955. Votre première exposition se tient en 1958 à Zurich. Picasso en a dessiné l'affiche. Elle est refusée. La critique vous compare au Marquis de Sade et ne comprend pas comment on peut montrer des sujets ramassés dans la poubelle. Pour vous tranquilliser, Cocteau vous écrit « Tout est lutte et la preuve que tes photographies ne sont pas des photographies, c'est qu'elles provoquent les mêmes insultes que les toiles ou que des poèmes. Je suis très heureux qu'on ne te sacre pas joli et charmant, mot d'ordre des imbéciles. » Vos photographies ne sont pas des photographies. Le poète le ressent. Et maintenant qu'il l'a dit, c'est bien ce que j'ai prouvé. C'est en poète que vous avez traversé le miroir des réalités, en donnant à vos images, charognes ou nues, portraits ou paysages, taureaux ou sable, une indéniable dimension lyrique. Le 31 décembre 1959, vous quittez votre emploi au Lion d'Arles pour devenir ce photographe libre qui a fait le choix de la photographie de création. Édouard Stechen achète vos photographies pour le Musée d'art moderne de New York en 1960 et vous y expose dès 1961. Willy Stellin de Zurich collectionnera vos images toute sa vie. Libéré d'un travail salarié, vos photographies achetées par des instances qui font autorité et par de fidèles collectionneurs, vous vous sentez prêt à fonder un foyer. Vous épousez en 1963 Yolande Bartel, qui va créer en 1983 la fondation Van Gogh à Arles et y organiser de prestigieuses expositions, dont Van Gogh vu par Francis Bacon, la dernière en date étant la haute note jaune de Claude Viola. Vous aurez deux filles, Anne et Olivia, qui toutes deux, chacune à sa manière, se consacrent à l'art. 1963 est aussi l'année de la mort de Jean Cocteau, l'affectueux poète, intarissable auteur des préfaces de vos livres. Ses poèmes caressent la magie de vos images, ses recommandations accompagnent l'accomplissement de votre œuvre. Sois rare, parce que l'époque n'a aucun sens du rare. Ne te disperse pas. À cette injonction, vous êtes resté fidèle. Le temps des 10 années passées au Lion d'Arles, d'instinct, vous aviez conçu et assemblé vos photographies selon des séries homogènes, aux éléments indissociables, refusant d'en vendre des tirages isolés. Ce sont encore aujourd'hui les livres sur un seul thème qui ont votre préférence, car ils donnent à voir la quête inlassable qui en est l'origine, comme la musique de Jean-Sébastien Bach que vous admirez. Vous retournez dans ces marais de Camargue que des dunes séparent de la mer, non plus pour y trouver des animaux morts ou les reflets de toute une flore qui s'y morfond, mais pour scruter au plus près les sables et la terre, repérer les signes de ce que la nature depuis la nuit des temps, opère sur elle-même. Les mouvements que le vent imprime au sable, les béantes craquelures de la terre que provoquent les brusques changements de température. Vous dépliez les plis de l'espace-temps. C'est ici la part la plus méditative de votre œuvre, presque silencieuse, malgré le crissement du vent sur le sable, les craquements de la terre. Vos photographies ont une force indéniable, une force tellurique. C'est le langage des sables, titre de votre thèse de doctorat, soutenu en présence de Roland Barthes, qui en rédigera la préface à l'occasion de son édition. En ordonnant ces images de sable, Clergue suit le parcours d'une naissance progressive hors du chaos primitif. La suite de Clergue est presque un traité de géomancie. Vous irez rechercher ces traces plus tard dans la vallée de la mort en Californie, sur les pas de celui à qui vous vouez une profonde admiration, Edward Weston. Le Méditerranéen que je suis se trouvait confronté à des espaces toujours plus démesurés. Vous en tirerez de magnifiques photographies en couleur lors de vos voyages successifs qui seront réunis en deux livres, Les empreintes des dieux et Ève et Noir. En fait, les traces de la vallée de la mort et celles des dunes de Camargue sont de même nature, de même origine. Seule la taille en diffère. Elles ne sont pas de notre monde, aurait pu dire Cocteau. On vous demande souvent quelle est votre photographie préférée. Vous répondez « celle que je prendrai demain » et c'est encore sur le sable que je trouverai la réponse. À la lecture d'Amer, que vous a conseillé votre ami Jean-Maurice Rouquette, vous êtes fasciné par la splendeur du langage, l'ampleur des visions de sa jeune Perse dans les évocations des fabuleuses richesses de la mer et de l'amour. Vous décidez de rencontrer l'auteur. Une fois encore, la magie opère. Saint-Jeune Perse, à l'altière réserve de diplomates exilés, le prix Nobel de littérature, le poète de 78 ans, fuyant le monde du haut de son belvédère de la presqu'île de Gien, vous reçoit. Votre projet est d'illustrer Amer des photographies que vous lui montrez. Et la somptuosité de vos nus dans la mer, leur intemporelle beauté, entre en résonance avec les vers du poète. Non seulement il accepte le projet, mais il y collabore activement. C'est finalement en 1973, 8 années plus tard, que Belfond l'édite avec succès. Le générique de la couverture a été rédigé par l'auteur. Genèse, photographie de Lucien Clergue, sur les thèmes d'Amer, choisi par sa jeune Perse. Quoi de plus beau, humble et généreux. Saint-Jean Perse vous a aimé, comme Cocteau, mort il y a 10 ans, comme Picasso, qui meurt cette année-là. La fréquentation de ces grands créateurs vous a fait prendre conscience de l'engagement de l'artiste dans la société. En déployant votre esthétique, vous avez su y joindre une éthique. Votre libre choix s'identifie à votre destinée. La réussite de belles collaborations éditoriales et de spectaculaires expositions vous ont fait connaître mondialement. Aux publications déjà citées, il faut ajouter le célèbre « Né de la vague », « Camargue secrète », préfacé par le peintre Mario Prasinos, ainsi que les éditions de bibliophilie, Fata Morgana et Patricia Dupuis, entre autres. Une monographie vient de paraître aux éditions de La Martinière. Quant aux nombreuses expositions, citons les rétrospectives chez John Stevenson à New York en 2005, Konrad Bernheimer à Munich en 2005, Louis Stern à Los Angeles en 2006, dans la ville d'Arles au printemps dernier, au Kunsthaus de Vienne dans quelques jours et à partir de ce soir à la Galerie Trigano de Paris. Photographe de l'année au Japon en 1986 et en Italie en 1999, vous avez reçu le Lucy Award à New York en 2005. Cette distinction venant couronner des échanges d'une qualité hors du commun. En 1969, vous devenez le directeur artistique du Festival d'Arles pour en faire en 1970 les rencontres internationales de la photographie avec Jean-Maurice Rouquette et Michel Tournier, puis plus tard avec l'indéfectible soutien de Michel Vauzel. Dans le même temps, vous obtenez de votre ami Jean-Maurice Rouquette, alors directeur du musée Réattu, la création d'un fonds de photographie qui sera alimenté au départ par les dons sollicités auprès des grands photographes de l'époque. Tous répondent à votre appel. Ce fonds compte aujourd'hui plus de 4500 tirages. Après 37 ans d'existence, nous savons le succès remporté par les rencontres et combien elles participent au rayonnement de la photographie et à celui de la ville d'Arles. Non content de cette réussite, vous militez pour la création de l'École nationale de la photographie, où vous prendrez le temps d'enseigner jusqu'en 1999. Dans un élan de cette générosité qui vous caractérise, et malgré vos très prenantes activités professionnelles, vous avez rendu à Arles tout ce que votre œuvre vous a permis de recevoir, et cela au centuple. En paix avec vous-même, pour avoir fait le plus complètement possible ce que vous aviez entrepris, pour avoir su donner l'exemple où et quand il le fallait, vous n'avez plus rien à prouver. L'âge venant vous donne alors l'occasion de découvrir en vous-même ce dont votre enfance vous a privé pour devenir jeune, cette fois pour toujours. Vous l'exprimez en déployant de fastueuses fantasmagories où par superposition, la charge d'un taureau traverse le tableau d'un maître ancien pour offrir ses cornes à une main d'ange. Et où ailleurs, de grands nus dont on voit les visages et les membres tombent en extase sous les assauts de deux coqs sortis du tableau d'un peintre flamand. La poésie que la peinture inspire et que votre photographie sublime confère à votre œuvre l'évidence de son authentique singularité. C'est avec admiration et respect que nous sommes heureux de vous accueillir, cher Lucien Clergue. Soyez le bienvenu.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Madame le Conseiller, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, Majesté, au sens la beauté de que sarie le monde, leuse tout ce qu'est beau, tout ce qu'est laï s'escunde. Mesdames, Messieurs, ne vous effrayez pas, je ne vais pas faire mon discours en provençal. Ce sont deux vers de Théodore Bonnel que je voulais offrir à ces reines d'Arles qui ont fait le voyage d'Arles et qui symbolisent tant de choses pour nous tous et pour tous ces Arlésiens qui sont venus depuis les rives du Rhône jusqu'ici. Et je vais vous les traduire tout de même. Il disait « Oh, sans la beauté, que deviendrait le monde ? Que luise tout ce qui est beau, que tout ce qui est laid se cache. » Nous voici donc réunis pour célébrer l'entrée de la photographie au sein des disciplines représentées dans l'Académie des Beaux-Arts, dans l'amphithéâtre d'Arles, lors d'une corrida. La coutume veut que le maestro dédie son combat à une personnalité. Aujourd'hui, avec votre permission, je voudrais brinder cette séance solennelle à celui qui devrait être ici à ma place, notre doyen, Willy Ronis, dont le grand âge ne lui a pas permis d'être avec nous cet après-midi. Laissez-moi dire à notre cher confrère Guy de Rougemont Je vous remercie pour lui. Laissez-moi dire à notre cher confrère Guy de Rougemont combien j'ai été ému et honoré des paroles aimables et bien trop flatteuses qu'il vient de prononcer en votre nom et qui rendent hommage à notre profession. Reportons-nous donc 168 ans en arrière, lorsque François Arago, membre de l'Académie des sciences, annonce la naissance de la photographie. La France, le 19 août 1839, vient d'offrir au monde cette invention sans brevet déposé, c'est-à-dire sans réclamer les droits qui y sont liés. La foule informée se pressait dans les couloirs et aux portes de l'Institut. Les journaux rapportent même que l'on frisa l'émeute. Croyez bien que la tentation me fut très forte de suivre le précepte de Boris Pasternak. L'homme est muet, seule l'image parle. Car je n'aurais pas eu à prononcer ce discours. Toutefois, je vais tenter de vous entretenir de photographie et de photographe. Voyons d'abord l'étymologie. Photographie, écriture avec la lumière. Ainsi, la chose est entendue. C'est l'art le plus vieux du monde, puisque le Big Bang de la création de l'univers fut le premier flash du Dieu créateur. Revenons pour l'instant aux circonstances de cette séance historique de l'Académie. Arago écrit au président du Conseil des ministres et le presse de révéler au monde les principes de l'invention de Niépce et Daguerre afin que des citoyens de nations étrangères n'en puissent tirer profit avant nous. En effet, un certain Fox Talbot, en Angleterre, s'apprête à déposer des brevets concernant les tirages sur papier. Le président du Conseil s'adresse alors à l'Assemblée nationale en ces termes. La France ne veut pas laisser aux nations étrangères la gloire de doter le monde d'une des plus merveilleuses découvertes dont s'honore notre pays. Il conseille à François Arago de faire une déclaration à l'Académie des sciences et d'y convier les membres de celle des Beaux-Arts. Après quoi, nos prédécesseurs attendront 167 ans pour nous inviter à siéger à leur côté. Rendons grâce au secrétaire perpétuel Arnaud d'Hauterive, qui, dans un discours prononcé ici même il y a 12 ans, émettait le vœu que la photographie vienne s'ajouter aux disciplines déjà représentées, dont le cinématographe, parent direct de la photographie, car le fils était entré dans le temple avant sa mère. Du Big Bang à l'Antiquité, il s'est passé nombre d'événements, et notamment toutes ces foudres tombées du ciel, photographies en puissance, qui excitèrent les imaginations. Paracelse écrivait « La nature suprême, la créatrice, vient dans une lumière et naît dans une lumière qui, à son tour, engendre la brume sombre, mère de tous les êtres. » Plus tard, Dominique de Villepin reprend cette image. L'éclair révèle le regard du poète en cet instant où le ciel vire au blanc et où le paysage se fige. Photographe et poète, voilà notre ambition. Quelle transe avons-nous gardé de ces phénomènes ? Picasso me disait « Oh, mais la photo, ça existe depuis longtemps. Si tu vas au Mont-Saint-Michel, tu verras des fentes dans le mur qui reproduisent à l'envers sur celui d'en face le paysage extérieur. Seulement voilà, on ne savait pas comment le fixer sur papier. » Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote avait déjà remarqué ce phénomène optique. Le principe de la chambre obscure était utilisé dans l'Antiquité pour l'étude des astres et surtout du soleil. L'ajout d'une lentille par Jérôme Cardan en 1550 et d'un diaphragme en 1568 par Barbaro complètent les recherches de Léonard de Vinci qui fabriqua en 1515 la caméra oscura ou chambre claire. Chambre noire, pardon. Elle lui permettait de dessiner avec plus de précision, utilisant la méthode du sténopé remise à la mode de nos jours. Cette référence à Léonard de Vinci nous renvoie à la naissance du sourire dans les arts, telle qu'elle apparaît pour la première fois sur la Gioconde du même Léonard. Et qui n'a vu les oliviers bruire sous le soleil, entendu la brise de Toscane frémir autour de la maison natale de Vinci, ne peut comprendre l'émotion que j'éprouve à porter désormais ces rameaux d'olivier, grâce à vous, chers confrères, et grâce au talent de Christian Lacroix. Les alchimistes d'autrefois ouvrirent la voie aux chercheurs qui voulaient fixer ces images impalpables. Ils avaient remarqué la curieuse action de la lumière sur le chlorure d'argent qu'ils dénommaient la lune cornée. C'est un romancier, Tiphaine de la Roche, qui, en 1760, exprimera une vision prémonitoire dans son livre « Gifanti », lorsque le héros découvre une technique permettant de fixer sur la toile, à l'aide d'un produit visqueux, les images reflétées par la chambre noire. Tournons-nous vers nos confrères de l'Académie des sciences, car ce sont eux qui ont recueilli et cautionné les travaux entrepris par leurs membres ou par des chercheurs étrangers. En effet, dès 1733, l'abbé Nollé invente une chambre obscure démontable que les académiciens approuvent. Grâce à elle, naît le dessin de la silhouette ou du profil. C'est le nom de Nicéphore Niépce que retiendra l'histoire. Né à Chalon-sur-Saône en 1765, il y passa sa vie de chercheur. S'intéressant à la lithographie, il voulait, selon ses propres paroles, trouver dans les émanations du fluide lumineux un agent susceptible d'empreindre d'une manière exacte et durable des images transmises par les procédés de l'optique. Dès 1816, il peut écrire à son frère « Je m'empresse de te faire passer 4 nouvelles épreuves que j'ai obtenues plus nettes et plus correctes à l'aide d'un procédé très simple qui consiste à rétrécir avec un disque de carton percé le diamètre de l'objectif. Le papier retient exactement l'empreinte de l'image colorée. » Dès 1822, la photographie était née car elle avait obtenu d'une nature morte une image sur verre très lisible. Il réalisa ensuite des héliographies sur plaques d'étain, enduites de bitume de Judée, qui, après morsure à l'eau forte, donnèrent d'excellentes épreuves. Il était sur le chemin des fameux daguerréotypes, épreuves uniques sur métal, mises au point par Louis-Jacques Mandé Daguerre, qui se lia avec Nicéphore Niépce et, à sa mort, recueillit le bénéfice de cette prodigieuse invention. Daguerre était peintre. Il se rendit célèbre en créant à Paris le diorama, qu'il ouvrit au public en 1822. Il avait été décorateur à l'opéra et utilisa ses connaissances pour créer des panoramas plus vrais que nature et si spectaculaires que tout Paris et jusqu'aux visiteurs étrangers s'y pressaient. Daguerre voulait aller vite et reproduire plus fidèlement encore ses œuvres. Après bien des péripéties, il conclut avec Nicéphore Niépce un accord et la société Niépce Daguerre en 1829, où il était expressément indiqué que l'invention était due à Niépce. Les techniques des beaux-arts sont à l'origine de cette invention, ainsi que celles de la physique, de l'optique et de la chimie, toutes préoccupations majeures de nos deux académies, qui travaillèrent ensemble à répondre aux demandes des chercheurs, parfois pas toujours dans le même sens. Ainsi, le scientifique et politicien Arago allait-il plus vite que les artistes de notre académie, privilégiant Daguerre au détriment de Bayard, qui s'avéra être le véritable artiste photographe. Daguerre reçoit une rente viagère, ainsi que le neveu de Niépce après sa mort. Le daguerréotype va connaître une période faste, tant en Europe qu'aux États-Unis. Ainsi, pour la seule année 1853, le New York Daily Tribune estimait leur nombre à 3 millions. Dans le même temps, Fox Talbot en Angleterre et Hippolyte Bayard en France s'acharnaient à trouver la solution pour présenter des tirages sur papier. D'ailleurs, Talbot, conscient du rôle majeur que jouait la photographie, soumettait-il 40 dessins photogéniques à notre académie et non pas à celle des sciences le 4 avril 1840. J'ai été surpris de pouvoir lire à cette occasion les réticences du peintre de la Roche à l'endroit de la photographie. Bayard leur donna le nom de calotype, qui est le véritable ancêtre des tirages que nous connaissons désormais. Malheureux Bayard, qui se considérait comme l'inventeur de la photographie, il ne reçut aucune rente. Aussi, en 1840, mit-il en scène sa propre mort, sous forme d'un suicide, dans sa baignoire, mort factice, car il ne s'éteignit qu'en 1896. La photographie sur papier commençait une double vie documentaire et créative, Ainsi, la mise en scène de Bayard introduit-elle les créations d'artistes contemporaines tels Orlan ou Cindy Sherman. C'est en 1847, et grâce à Blanquart et Vrard, et toujours sous les auspices des deux académies, qu'au cours d'une démonstration au Collège de France furent imposés définitivement des tirages sur papier. Permettez-moi de survoler l'évolution de ces recherches photographiques en évoquant que les noms illustres de Healy Adamson, Julia Margaret Cameron, la tante de Virginia Woolf, de Le Gray, Malthus, Marville, Maxime Ducamp, Adolphe Braun ou Charles Nègre, pour en arriver au poète Victor Hugo, qui, lors de son exil, confectionna un album avec des vues de Jersey, accompagné de ses vers, et photographié par son fils Charles et son gendre Auguste Vaquerie. Notre consoeur, Madame Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, écrira en 2004 « Si Baudelaire craignait que la photographie ne corrompe l'art, Victor Hugo avait d'emblée compris la puissance de ces images, l'usage qui pouvait en être fait pour propager les idées. Comme toujours, c'est le visionnaire qui aura entrevu ce que l'invention de Niepce et Daguerre pouvait représenter pour le monde à venir. » Nous pouvons associer à cette pratique des écrivains celle de Lewis Carroll, qui, à la recherche de son Alice au Pays des Merveilles, photographiait des fillettes dont certaines entièrement dévêtues, les épreuves étant peintes par une de ses amies. On retrouve là aussi sa grande compétence photographique et son imaginaire d'artiste. En 1878, George Eastman produit à Rochester les premières plaques au gélatino-bromure et crée la maison Kodak. Il imposera le fameux slogan « Appuyez, nous ferons le reste ». Désormais, la photographie est lancée sur le plan industriel, ce qui fait dire au médiologue Régis Debré dans un débat récent « Nous avons un état Kodak qui se veut une empreinte de la société ». De nombreux artistes lui donneront ses véritables lettres de noblesse. Peu avant l'apparition du procédé de George Eastman, celui de collodion humide eut une certaine vogue et Corot l'appliqua pour réaliser des gravures appelées clichés verts. D'autres comme Delacroix, Millet et plus tard Picasso l'utilisèrent à leur tour. Les recherches sur le collodion humide furent laborieuses. Je ne résiste pas au plaisir de vous énumérer les produits proposés entre 1854 et 1863 pour préserver le collodion négatif. L'azote de zinc, le sucre, la glycérine, le sirop de gélatine, de gomme et de miel, le sucre brut, la graine de lin, le lait, le sirop de framboise, la bière, le caramel concassé, le tabac gommé, le café sucré. Je salue ici la patience de nos confrères de l'Académie des sciences auxquels furent soumis quantité de ces expériences et qui acceptèrent d'y croire, ce qui nous permet d'être réunis aujourd'hui. Saluons Nadar, certes pour son œuvre considérable constituée des portraits inoubliables de Delacroix, Wagner, Berlioz ou Baudelaire, réalisés dans les années 1850-60, mais aussi parce qu'il fut l'initiateur de la photographie en lumière artificielle et le père de la photographie aérienne, pratiqué depuis un ballon dirigeable au-dessus de Paris en 1866, et dont mon collègue et désormais confrère, Yann Arthus Bertrand, est aujourd'hui reconnu comme un des maîtres. Ce qui me touche chez Nadar, c'est son engagement auprès des peintres, car il fut le premier à exposer les impressionnistes dans son atelier de photographe. Les relations entre peinture et photographie sont multiples. Eugène Hadjet, praticien discret et modeste, était le fournisseur de beaucoup d'artistes. Ses vues de Paris, des petits métiers, des jardins, des statues étaient très utiles à leur pratique. Il eut comme admirateur Man Ray et Bérénice Abbott. Elle devait devenir une grande dame de la photographie américaine et s'acharna à le faire reconnaître en France. Elle l'appelait le Balzac de la caméra. Ce fut le Museum of Modern Art de New York en la personne de John Sarkowski, qui s'intéressa à son travail et produisit expositions et catalogues faisant désormais référence. Je fais une parenthèse pour vous dire que hier à New York, au Musée d'Art Moderne, ont célébré le mémorial de John Tarkovsky, décédé il y a quelques mois. Il se passionna aussi pour une photographe entre parenthèses, connue comme peintre, Jacques-Henri Lartigue, que lui révéla Richard Avedon lorsqu'il découvrit ses albums intimes. Au début du XXe siècle, deux photographes, Station et Stieglitz, ont été les premiers à présenter les œuvres de Braque et de Picasso dans leur galerie de New York, perpétuant l'innovation de Nadar. Cette relation avec les peintres et les sculpteurs n'a cessé de s'exprimer au fil du temps. Le français Marais fit une série de photographies d'un cheval au galop en 1877 et put ainsi prouver aux observateurs, dont les peintres, que leur interprétation était fausse. Voulant relever le défi, un riche Américain de San Francisco demanda à Muybridge de reproduire l'expérience. Le résultat étant identique, il s'inclina et publia ses travaux. On sait l'importance qu'ont joué les planches des animaux et des humains en mouvement dans l'œuvre de Francis Bacon et de notre confrère Vladimir Velichkovitch. Au tournant du siècle, Station photographie Rodin et ses œuvres, en particulier sa très controversée sculpture de Balzac. L'illustre sculpteur était émerveillé par ses prises de vue faites la nuit durant de très longues pauses et affirma, grâce à cette photographie, les gens comprendront mieux mon Balzac. Dans le même temps, le procédé au charbon attirait des photographes pictorialistes car il tendait à rapprocher la matière photographique de la peinture. De Machy était un adepte de ce genre de tirage que son ami Fresson avait perfectionné pour lui. Le procédé amélioré est toujours utilisé par ses descendants dans leur atelier de Savigny-sur-Orge. Mais le monde bouge, la guerre éclate. Les photographes sont une fois encore sur les lieux de combat comme le furent pendant la guerre de sécession aux États-Unis, Fenton et Brady. Ils parcouraient les champs de bataille, préparant leurs plaques avec le collodion humide sur les lieux mêmes des combats et faisaient porter à cheval leurs épreuves aux politiques siégeant à Washington. Et c'est en voyant leurs frères morts sur les talus que ces messieurs décidèrent de mettre fin à cette guerre. Dans un tout autre domaine, les photographes de l'Ouest fixaient les paysages avec leurs grandes chambres en bois. Le grigoriste O'Sullivan et l'artiste de la caméra Watkins faisaient prendre conscience au public de la beauté de la nature, et c'est alors que naquirent ces fameux parcs nationaux. Au début des années 20, peu après la révolution d'octobre 1917 en Russie, deux hommes vont bouleverser le cours des choses. Edward Weston, installé à Los Angeles, pratique la photographie pictorialiste avec succès. Il part à Mexico avec sa compagne, excellente photographe Tina Modotti, rejoindre l'intelligentsia communiste dominée par Diego Rivera et sa femme Frida Kahlo. Pour photographier des objets simples, poterie mexicaine, jouets artisanaux, voire la cuvette des WC, ces images bouleversent ses nouveaux amis. De retour à Los Angeles, brûlant ses négatives antérieures, il s'attache à photographier des légumes et des coquillages qui crée une rupture totale avec le pictorialisme. La netteté est de rigueur, un cadrage simple, un constat sublimé, la lumière à sa plus haute note, en particulier dans un artichaut coupé en deux, ou un poivron aussi sensuel que les nues de sa femme Caris, qu'il photographie dans les dunes océaniques. Il crée avec Ansel Adams le groupe F64. 64 s'avère être la plus petite ouverture de diaphragme connue, et donne de ce fait une netteté absolue à toutes les distances. À l'est, Man Ray quitte Philadelphie pour rejoindre à Paris le groupe surréaliste, dominé par le peintre Max Ernst, le graveur et photographe Bellemare, le poète Paul Éluard, l'écrivain, gourou du groupe André Breton. Il y trouve un terrain propice à la conduite de ses expériences en utilisant l'effet Sabatier, dit solarisation, qui donne un contour noir au portrait, sans l'aide de la caméra. Il crée aussi ce qu'il appellera les rayogrammes, avec des objets posés directement sur le papier sensible. Ces deux artistes utilisent peu leur agrandisseur. Weston tire ses épreuves par contact direct, d'abord sur le toit de sa maison mexicaine, selon la technique en vogue des tirages au platinum palladium, sous le soleil, puis en Californie, sur papier au sel d'argent. Aujourd'hui, les épreuves de ces deux novateurs sont parmi les plus recherchées. À la même époque, le russe Rodchenko se fait le champion de la nouvelle photographie qui débouchera sur le constructivisme. « À bas l'art, vive la technique !» affirme-t-il, bientôt suivi par le Hongrois Molinaj, un des maîtres du Bauhaus, dirigé par Walter Gropius à Weimar, dont les vues du pont transbordeur de Marseille en 1929 résument son esthétique constructiviste. Entre-temps, Oskar Barmak met au point en 1925 en Allemagne un appareil qui va simplifier la vie des photographes, c'est le Leica. C'est le Leica. Il permet d'utiliser une pellicule de 36 vues et surtout, il est petit, bien plus léger que toutes ces chambres en bois dont on s'efforçait de réduire le format d'année en année. Il donne un négatif de forme rectangulaire de 24 par 36 mm et va très vite être adopté, notamment par les reporters, en tête desquels Henri Cartier-Bresson, qui revient du Mexique en 1932, où il a élaboré ses premiers chefs-d'œuvre après avoir pratiqué la peinture avec André Lhote pendant 2 ans. Cet appareil est en concurrence avec le Rolleiflex, qu'une firme française tentera d'imiter sous le nom de Semflex. De format carré, il a été utilisé par toute une génération de photographes. On n'imagine pas le pouvoir de l'appareil photographique. La ville de Wetzlar, où était fabriqué le Leica, fut épargnée durant la guerre parce que le général américain qui aurait dû donner l'ordre du bombardement en était un fervent adepte et ne voulait pas qu'on détruise les usines de sa fabrication. À Paris se retrouvent quantité d'émigrés qui photographient sans relâche. La revue Vue publiera les plus belles images de Kertész le Hongrois, Brassailles le Transylvain et le Français Emmanuel Sougès dans des mises en page qui sont restées en modèle du genre. Aux États-Unis, c'est la revue Life qui s'attache à la collaboration des plus grands photographes, Margaret Bourke White, Dorothy Lange, William Jane Smith, Edward Steichen, qui deviendra, après avoir été enrôlé comme photographe aux armées, le conservateur en chef du département de photographie au Museum of Modern Art de New York. Les photographes étaient enfin reconnus comme artistes à part entière. Et je dois dire que mon étonnement fut immense lorsque, visitant pour la première fois ce musée mythique en 1961, j'ai vu qu'il fallait traverser les salles de photographie pour aller admirer Guernica, confiée par Picasso à ce musée. On notera d'ailleurs que cette toile est peinte en camaïeu de gris, noir et beige, semblable aux reproductions photographiques dans les quotidiens d'information. La photographie n'est toujours pas officiellement collectionnée en France, bien qu'il existât des archives exceptionnelles, notamment à la Société française de photographie, au musée Carnavalet et, reconnaissons-le, à l'Institut de France, ici même, qui en détient 40 000, parmi lesquels de somptueuses épreuves de Gustave Legret, Marville, Baldus, des frères Bisson, de Nadar, de Maxime Ducamp, le compagnon de voyage de Gustave Flaubert, qui firent l'objet d'une exposition intitulée « Éclat d'histoire » au musée Marmottan en 2004. Nul doute que nous l'enrichirons d'œuvres contemporaines, sachant que l'Académie gère la Casa de Velázquez à Madrid, où plusieurs pensionnaires sont des photographes. D'ailleurs, l'Académie octroie pour la première fois cette année un prix de photographie. Mais seule la Bibliothèque nationale tentait de constituer une véritable collection, de façon parfois empirique, et je me souviens que Jean Adhémar, le responsable du département, se cachait presque pour acheter les photographies de son temps, bien vite imité par l'infatigable Lemagny, que j'ai vu lui-même payer des œuvres de sa poche pour enrichir les collections nationales. En revenant de New York en 1961, j'ai convaincu l'ami Rouquette, conservateur des musées d'art, d'ouvrir une salle à la photographie dans le musée Réattu. Pour créer un département de photographie, il nous faut une collection, me dit-il. Qu'à cela ne tienne, j'écrivis à 40 photographes que j'admirais particulièrement et très vite tous répondirent avec enthousiasme en nous offrant des tirages. Aujourd'hui, et grâce à l'opiniâtreté de Michel Moutachard, la collection du Réattu est riche de 4500 œuvres, dont un bel ensemble d'Edward Weston, de Man Ray, Brassailles, Ansel Adams, Douaneau, Diozède, et elle peut désormais acheter quelques œuvres récentes. Je me souviens de Steichen se plaignant toujours et me disant « Quand je demande 10 000 $ pour acquérir des photographies, on me répond toujours non. Mais pour acheter des millions une toile de Van Gogh ou de Matisse, il trouve les fonds tout de suite. En 1959, Steichen achetait des tirages des plus grands, comme des inconnus, à 10 dollars l'unité. J'ai été stupéfait d'apprendre que dans nos collections arlésiennes, une épreuve de Weston était désormais estimée 10 fois plus qu'un dessin original de Picasso, lequel disait dans sa jeunesse, mais était-ce une boutade ? Maintenant que la photographie existe, je peux mourir. Je retiendrai de lui ses confidences faites à Brassailles et que celui-ci rapporte dans son livre « Conversation avec Picasso ». La photographie est arrivée à point nommé pour libérer la peinture de toute littérature, de l'anecdote et même du sujet. En tout cas, un certain aspect du sujet appartient désormais au domaine de la photographie. Les peintres ne devraient-ils pas profiter de leur liberté reconquise pour faire autre chose ? Si aujourd'hui des artistes comme Fromanger, Estes ou Blackwell continuent d'utiliser la photographie pour peindre, Peter Claesen mène une double vie de peintre et de photographe, Bernard Venet a célébré le noir dans ses photographies, le peintre Ernest Pignon Ernest les a affichés sur les murs de Paris et de Venise, et le regretté Armand nous a livré ses expériences au musée Réattu. Souvenons-nous de Degas, photographe et peintre, du trio peignant d'après des cartes postales, de Salvador Dali, qui disait à Jean Cocteau, qui me l'a confié, « Léonard, de Vinci, ne besognait que d'après des photographies. » La photographie n'est donc pas la propriété des seuls photographes. Gordon Parks était compositeur de musique, auteur de films. Frédéric Sommer a même élaboré des compositions musicales photographiques qui furent jouées par des quatuors. Pascal Kern a photographié ses propres sculptures. Je songe à ces écrivains adeptes de l'objectif, Hervé Guibert, Claude Simon, Jean Baudrillard, notre confrère Marc Fumaroli et même Michel Tournier. L'univers de la mode est riche d'un étroit échange du même ordre. Richard Avedon pour le film Funny Face en est un bel exemple, alors que Cecil Beaton monte à lui-même décor et costumes de My Fair Lady et de Gigi. D'autres comme William Klein, Brassailles, Agnès Varda et Cartier-Bresson ont aussi tenté avec succès l'aventure cinématographique. Quant à Karl Lagerfeld, il photographie ses propres créations. Le nom de Roland Barthes nous vient en mémoire, bien qu'il ne soit pas photographe. Ses écrits sur ce médium ont eu tellement d'importance, et dois-je l'avouer humblement, le rôle éminent qu'il joua lors de ma soutenance de thèse à l'Université de Provence fut si encourageant qu'il a sa place dans ce panthéon, ne serait-ce que pour avoir comparé la photographie au haïku de la poésie japonaise. Dans les années 80, David Hockney nous prend tous de court en réalisant à l'aide d'un appareil Polaroid des composites extrêmement complexes de paysages, de portraits qu'il perfectionnera plus tard avec la caméra classique. Chuck Close se servit du seul appareil Polaroid de dimension humaine en réalisant son autoportrait à l'aide de 9 fait preuve géante. Karel Appel utilisa pendant une période de sa vie le Polaroid 50-60 pour réaliser des photosculptures assemblées avec des cordes. Et Rauschenberg effectuera le plus grand tirage de l'histoire qui mesurait 100 yards et il fallut fabriquer une tireuse spéciale pour le réaliser d'un seul tenant. Et que dire de Georges Rousse qui mêle peinture et photographie dans une même restructuration in situ. Mais à côté des stars de la peinture qui utilisent la photographie, à celles dites vernaculaires, des anonymes, que les collectionneurs ont achetées sur les marchés aux puces et ont élevées, comme l'aurait dit Cocteau, à la dignité de servir. Nous, les photographes, sommes conscients aujourd'hui de la possible disparition de notre outil premier, le papier. Déjà, les hologrammes considérés comme la photographie en relief nous ont alertés. C'est le triomphe du numérique et des tirages au laser ou au jet d'encre, avec des garanties de pérennité plus ou moins discutables. Sans nul doute, les mêmes progrès accomplis au XIXe siècle à Palan le seront aujourd'hui pour obtenir des tirages de qualité à partir d'images prises avec un appareil numérique ou même avec le téléphone portable, voire avec les inventions à venir dont je prédis la plus stupéfiante. Après avoir placé dans votre corps, je ne sais quelle puce électronique, un seul clignement d'yeux, et la photo sera prise. Chers confrères de l'Académie des sciences, tenez-vous prêts. Lorsque j'étais au lycée Mistral de ma ville natale, les magazines comme Playboy n'existaient pas et nous nous contentions de nos revues naturistes qui montraient des photographies d'hommes et de femmes entièrement nus face à l'objectif mais totalement asexués. Cela me semblait une injure à la personne humaine et je promis à mes camarades de tenter dès que possible des photographies de nus et de tout montrer. Ce que j'entamais un peu plus tard, il est à remarquer que peintres, sculpteurs, graveurs pouvaient montrer le sexe de l'homme ou de la femme, tandis que les photographes n'en avaient pas le droit. Lorsque je fis mes premiers nus, il y avait en Camargue une brigade de répression du naturisme qui sévissait sur nos plages. Et je dus me mettre sous la protection du sous-préfet pour être assuré de ne pas aller en prison ni de voir mes modèles inquiétés. Ces photographies parurent en illustration des poèmes de Paul Éluard et mon éditeur espérait bien la saisie du livre pour accéder à la publicité. Mais rien ne vint. Jusqu'à ce que l'on apprenne l'existence d'un jugement qui stipulait « Là où il y a la tête, il ne faut pas le poil. Et là où il y a le poil, il ne faut pas la tête. » J'étais sauvé car je ne saisissais jamais les visages de mes charmantes collaboratrices. Mes travaux des dernières années m'ont amené à aller souvent dans les musées qui détiennent des œuvres du XIVe au XVIIIe siècle, afin d'entreprendre des surimpressions de tauromachie ou de nus avec des fragments de tableaux. Et vient cette question capitale. Si le Christ n'avait pas été crucifié, qui aurait-il sur les murs? Les musées seraient vides? Il est frappant de voir, dans les œuvres peintes sur ce thème, des situations tragiques exacerbées par l'auteur grâce aux personnes qui devaient poser pour représenter, entre autres, la souffrance de la Vierge Marie ou le désespoir de Marie-Madeleine. Récemment est parue dans Le Monde 2 la photographie de Skauta Fankian montrant une famille de Gaza pleurant l'un des leurs. Plus de recul, comme dans ces tableaux du XIVe siècle qui ne font qu'interpréter les évangiles. Ici, c'est de l'estan même qu'on témoigne. Et cette composition peut être rapprochée des plus tragiques Pietà. L'attitude, l'expression, la composition sont identiques. Acceptera-t-on enfin d'accrocher cette bouleversante image à côté des tableaux mythiques de Botticelli, Crivelli ou Grunewald? Ce serait pourtant dans la continuité de notre histoire. Voilà donc une bataille à mener encore, chers confrères. François Arago écrivait dans son rapport de janvier 1839 « Il serait certainement hasardeux d'affirmer que les couleurs naturelles des objets ne seront jamais reproduites dans les images photogéniques. La couleur sera expérimentée et menée à bien par Charles Cros, poète et physicien, qui en 1869 invente un procédé de trichomie en même temps que Louis Ducos de Buron. » Et depuis cette date, les recherches pour obtenir des photographies en couleur n'ont cessé de se poursuivre jusqu'à aujourd'hui avec des procédés électroniques, notamment les jets d'encre. Charles Cros mourut jeune en 1888 et ce sont les frères Lumière qui, en 1895, concrétisèrent ses premières recherches en mettant au point un procédé appelé autochrome Lumière dont l'élément déterminant était la fécule de pomme de terre. On sait le rôle éminent qu'ont joué ces deux frères si étroitement associés et votre serviteur a longtemps tiré ses premières images en noir et blanc sur ce merveilleux papier au sel d'argent appelé Lumière Élysée. Un jour pourtant, les héritiers revendirent cette marque mondialement connue qui devint propriété de la société Ilford en Angleterre. Le nom doublement magique de Lumière s'éteignait. Je me souviens d'avoir écrit au ministère de l'Industrie pour dire mon indignation d'avoir laissé disparaître un nom si beau, si riche d'enseignements, lumière, écriture avec la lumière. Nous perdions notre identité. Mais l'art dans tout cela. C'est à Albert Camus que je me réfère lorsqu'il affirme en 1957 « Si les formes ne sont rien sans la lumière du monde, elles ajoutent à leur tour à cette lumière. » Et John Sarkowski l'affirmait le photographe découvrit que ces images pouvaient révéler non seulement la clarté, mais aussi l'obscurité des choses, et que ces photos mystérieuses et évasives pouvaient à leur manière paraître ordonnées et porteuses de sens. Christian Gattinoni, professeur à l'École nationale supérieure de photographie d'Arles, dans un récent ouvrage écrit « Pratique impure », la photographie s'acoquine avec les arts plastiques comme avec le spectacle vivant pour documenter nos légendes individuelles et collectives. Pourquoi introduire la photographie dans cette illustre académie ? Il est vrai qu'au début des recherches, seuls comptaient les résultats tangibles et on se souciait fort peu du résultat artistique. La première photographie obtenue par Nicéphore Niépce des toits de Chalon-sur-Saône ne se trouve pas dans les collections françaises. Helmut Gernsheim ayant vainement essayé de la vendre à notre pays. Elle fait partie des collections de l'université d'Austin au Texas, où on peut la voir en soulevant discrètement un petit rideau sous lequel elle se cache, à l'abri de la lumière. De là à évoquer un certain tableau de Courbet sur l'origine du monde et la façon dont il était caché. Ah, ces troublantes origines ! Serait-ce la beauté à faire peur dont parle Jean Cocteau ? Cette image est désormais une icône qui participe de l'histoire de l'art. Et nous en arrivons aux épreuves récentes de Richard Prince, qui, refotographiant une célèbre affiche publicitaire d'une marque de cigarettes utilisant les cow-boys dans des paysages sauvages, redonne à l'image initiale sa liberté d'expression. Il serait trop long ici d'évoquer toutes les écoles de photographie. Retenons le moment décisif, cher à Cartier-Bresson, et la photographie subjective d'Otto Steinert dans l'Allemagne des années 50, qui ont chacun marqué le milieu du siècle, suivi plus tard par les installations de Sophie Kahl et de Boltanski, pour en arriver à l'école de Düsseldorf où le couple Becher a formé une pléiade d'artistes photographes dominé par Andreas Gursky, que prolonge en France Stéphane Couturier, ainsi que l'école de Vancouver, fortement représentée par Jeff Wall. Permettez-moi de célébrer ici l'École nationale supérieure de photographie d'Arles, fille légitime des rencontres de la photographie fondée en 1969, qui fit partie des grands projets du président Mitterrand et qui est dirigée aujourd'hui par François Hébel. Cette école est devenue depuis peu, sous la direction de Patrick Talbot, pas le même Talbot, mais prédestiné, un établissement public. Depuis plus de 20 ans, chaque année, 20 à 25 élèves de France et de l'étranger en sortent diplômés. Elle aménagera prochainement dans la nouvelle fondation européenne autour de la photographie, cher ami Michel Vauzel, qui l'a inaugurée la semaine dernière, avec le maire d'Arles, sur le site des anciens ateliers SNCF, que l'on devait au poète et homme d'État Lamartine lors de sa campagne électorale, peu après la naissance de la photographie. Il est toutefois une spécialité qui retient notre attention, c'est celle des reporters, ceux de la rue, mais aussi de la guerre. Les images de Robert Bob Capa, fondateur avec Cartier-Bresson de l'agence Magnum en 1947, sont sans doute les plus célèbres et les plus controversées. Celle du soldat blessé à la guerre d'Espagne, que l'on a dit truqué, et celle du débarquement allié qui faillit être perdu à jamais par la faute du laborantin, faisant une erreur de développement et du coup leur a donné une aura mythique. Ces photographies utilitaires, des chefs-d'œuvre du genre, sont devenues des chefs-d'œuvre tout court. On sait que Bob Capa perdit la vie au cours d'une mission au Vietnam, comme Gilles Caron devait disparaître au Cambodge des années plus tard. Et je songe avec terreur que si cette invention était née plus tôt, qui sait s'il n'aurait pas été brûlé vif sur la place publique comme les sorciers qu'on traînait au bûcher. Mais d'autres perdurent. Dieu merci, distinguons William Klein, Christine Spengler, Salgado, Don McCullin, Depardon, Natchoué et Luc Delahaye. Je n'ai pas été choisi par mes pères, mais par mes maîtres ou leurs descendants, en peinture, sculpture, gravure, cinématographe, mode, architecture, musique, et je les en remercie une fois encore. Les seuls photographes qui m'encouragèrent dans ma jeunesse furent Isis, dont je salue la mémoire, et Agnès Varda. Mesdames, Messieurs, ma chance fut de pouvoir séjourner pendant une semaine, à l'âge de 22 ans, dans un château des Merveilles situé près du pont du Gard. Douglas Cooper, historien d'art et collectionneur, m'en confiait la garde pendant qu'il s'en allait sélectionner des dessins inédits chez Picasso. J'eus ainsi le privilège de vivre au milieu d'une collection de tableaux cubistes uniques au monde, complétée d'œuvres de Miro, Paul Klee et Nicolas de Staël, de sculptures de César et d'Auguste Renoir, de découvrir des livres illustrés d'estampes de la plupart de ses maîtres, d'écouter les compositions musicales de cette époque révolutionnaire, vivre dans une architecture baroque et de m'être aventuré sur l'un des plus fameux monuments romains. Bref, vous l'aurez compris, le destin me replace 50 ans plus tard dans ce palais des merveilles qu'est l'Institut. Je retrouve cette famille de cœur que j'avais découverte en Provence et me voici au bord de la Seine, plus calme que le Rhône et le Gardon, mais témoin de tant de siècles d'histoire. Dans l'un de ses poèmes, Saint John Perse nous lance « Grand âge, nous voici, prenez la mesure du cœur d'homme. » Le paraphrasant, j'ai envie de dire « Grand âge, nous voici. » Prenez mesure de cette merveilleuse découverte et laissez entrer avec nous les chantres de cet art. Pardonnez-moi, chers confrères, de vouloir pousser ces illustres colonnes, faire ouvrir bien grande cette porte face au pont des arts, le bien nommé, car nous serons nombreux, je l'espère, à entrer sous cette coupole et nous vous remercions de nous y accueillir.
Vous venez d'entendre la réception de Lucien Clergue à l'Académie des Beaux-Arts en tant que premier photographe assiégé sous la coupole de l'Institut. Vous pourrez également entendre sur Canal Académie une interview exclusive accordée par le photographe sur www.canalacademie.com.